Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu pour revenir sur les grands événements sportifs du week-end qu'on va suivre. Olivier Ledain est absent pendant quelques jours, donc on va le remplacer évidemment. On va essayer de faire au moins aussi bien que lui. On va parler de deux sports dans cette émission. On va parler foot et rugby avec nos trois invités, Olivier Deniau, Bruno Salvet et Christian Prost. Bonjour à tous les trois.
Et bien bonsoir.
Alors foot, ce sera évidemment un petit point sur la saison de Ligue 1. On parlera aussi de la Ligue des Champions. Et puis le rugby, il y a une actualité très riche avec la suite du top 14, avec la préparation des tournées de ce qu'on appelle les tests match d'automne. Et puis on parlera évidemment donc de cette équipe de France qui va affronter successivement le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Bruno Salvet, on va commencer par le top 14. Voilà, on est encore au début de saison, hein. Les choses sont loin d'être jouées, mais on voit que Toulouse et Bordeaux tranquillement marquent un petit peu ce championnat et dominent les choses par rapport aux autres équipes.
Oui, elles sont largement au-dessus du lot, hein, puisqu'elles ont déjà pris pas mal de points d'avance sur les poursuivants. Mais c'est vrai qu'elles alternent entre la première et la seconde place. Donc Toulouse a brillamment remporté son match ce matin contre Toulon.
Ouais, 57-5.
Hein. Voilà, donc un gros score, un bonus offensif. Donc et le Stade Toulousain est repassé devant. Mais ce sont les deux finalistes de la saison dernière. Et maintenant, il va falloir compter notamment sur la trêve internationale. Quoi, la trêve. Il n'y aura pas de trêve pour les clubs, puisque les clubs vont continuer à jouer. Par contre, les internationaux seront mis à disposition de l'équipe de France. Donc, il va y avoir énormément de manques au niveau de ces équipes. D'où la nécessité d'engranger le maximum de points en début de championnat pour pouvoir, après... Je crois qu'il y a entre 5 à 6 semaines en comptant le...
Il y a 6 semaines, oui.
Voilà, 6 semaines de manque de joueurs entre la tournée d'automne et puis après le tournoi destination. Donc, il va falloir vraiment gérer l'effectif avec les blessures et avec surtout le manque d'internationaux.
Mais alors voilà, ce sont des équipes qui naturellement dans leurs équipes intègrent le fait qu'il y aura des doublons et elles ont quasiment la possibilité de faire trois équipes de 15 joueurs. Hein. C'est des staffs énormes de 45 joueurs.
Oui, carrément. Oui, on l'a vu l'année dernière. Hein, le staff toulousain a tourné avec énormément de joueurs. Après, il n'y a pas que les internationaux français, pardon. Il y a aussi les internationaux
Autres nations.
Des autres nations. Donc pour ce qui est des Écossais, les Australiens, voilà.
Et les Anglais, parce qu'on en voit de plus en plus dans le championnat de France.
Et non, parce que les Anglais qui évoluent en championnat de France n'ont pas la possibilité de... C'est un choix de la fédération anglaise.
De ne pas jouer pour leur sélection.
Voilà, malheureusement, hein, parce que bon, je vois un troisième ligne comme Willis actuellement, qui est vraiment au top niveau. Il ferait beaucoup de bien à cette équipe d'Angleterre, mais c'est un choix de la fédération. Donc pour être sélectionnable en équipe d'Angleterre, il faut évoluer dans le championnat domestique, dont le championnat anglais.
Toulouse, Bordeaux, tête de gondole de ce top 14. Christian Prost, ça vous surprend ?
Non, pas du tout, non. Je crois que ça me rappelle le bon mot de Murillo, qui un jour, on parlait rugby, a dit « Christian, parlez-moi de poésie, mais surtout pas de rugby. » Non. Et en revanche, je poursuis un peu la réflexion là de Bruno. Je crois que c'est neuf joueurs à...
À Toulouse.
À Toulouse, et 11 ou 12 appelés à Marcoussis de Bordeaux, Toulouse.
Ouais, ouais.
9 à Bordeaux.
9 de Bordeaux et ouais. 11 de Toulouse.
C'est ouais. Lourd. Mais d'un autre côté, ça révèle, aujourd'hui, ils prennent les devants, et ça révèle des jeunes joueurs, une grande dynamique de club, etc. C'est pas négatif, vraiment négatif. Voilà. Autrement, de voir ces deux équipes-là, non, je serais plutôt un peu déçu par La Rochelle, que j'attendais un peu mieux. Avec des erreurs hier, par exemple une erreur de main d'Aldridge qui leur coûte la victoire. Hein.
Oui, mais après le quoi, moi j'ai vu le match comme toi contre la Rochelle. Quoi, les conditions météo étaient vraiment terribles, donc ça nivelle aussi hein, les équipes. Montpellier est aussi pas loin du précipice, donc il fallait gagner à tout prix à la maison. Et c'est vrai que en rugby, quand le terrain est gras et qu'il pleut. Ça favorise surtout l'équipe la plus faible. Donc là, je pense que La Rochelle, Montpellier a été favorisé par ces conditions météo très très.
Oui, il pleuvait énormément.
Oui, il pleuvait. Le ballon était glissant, le terrain était gras.
Mais il est vrai que le rugby, quand on se compare aujourd'hui, enfin, je ne veux pas vexer ou froisser notre ami Daniel, mais le rugby.
Oh, il en faut pour le français.
Le championnat.
Vas-y.
Le championnat de France de rugby. Tu regardes Lyon, tu regardes Toulon, tu regardes machin. C'est quand même Bruno confirme, un niveau, hein. Il y a vraiment du niveau. Il y a vraiment, c'est un des meilleurs championnats.
Pourquoi serait-il agressé? Parce que vous vous comparez au football,
non,
c'est
parce
ça
que le football,
on va parler du foot après, mais t'inquiète
donc
pas.
Le football aujourd'hui, Lyon, PSG, machin, à côté de City,
oui,
Arsenal,
Barcelone, Chelsea. Madrid. Ouais.
Non, mais on va revenir sur
revenir
le
rugby,
top 14.
On viendra tout à l'heure, mais pour revenir au rugby, je pense qu'au niveau de la professionnalisation de ce sport, on a atteint un niveau vraiment exemplaire, parce qu'on se rapproche de la gestion du foot américain, où ils ont je ne sais pas combien de joueurs à gérer tout au long d'une saison. Et là, c'est exactement ça. Hein. Tu disais 3 équipes de 15, je pense qu'on n'est pas loin du compte, hein, Bruno.
Complètement,
et ouais. Gérer ses effectifs, on mais sait alors... très bien. Oui, mais en football, ils sont incapables de le faire. Tu y venais, Christian, c'est exactement ça. Ils sont tous professionnels, ils ont un schéma de préparation physique, technique, tactique, qui fait que lorsqu'il y a 11 absents, comme tu le soulignais tout à l'heure, eh ben, les remplaçants sont pas loin d'être... bien sûr, hein, on remplace pas Antoine Dupont comme ça, on est d'accord. N'empêche que Toulouse est capable de faire des grands matchs, même si Antoine Dupont et les autres ne sont pas là.
Oui, il en a manqué d'ailleurs déjà un certain nombre depuis le début de la saison.
Bruno, je satisfaction, je t'interromps, Bruno.
Vas-y, vas-y.
Une satisfaction de ce match.
De quel match? Toulouse-Toulon.
Rivalité.
Oui, oui.
Et du match de Toulouse, c'est le retour d'un joueur que j'admire par son comportement sur le terrain comme en dehors, c'est Gelon.
Anthony Gelon, je vais être discret et toujours performant.
Dans l'équipe de France, c'est
voilà.
Bien.
Et deux essais ce matin pour fêter son retour à Toulouse. Ouais. Oui, moi je pense que le modèle aussi, ce qui fait la réussite du top 14, c'est le modèle économique qui a été créé autour de cette compétition, puisque ça devient vraiment le championnat le plus attractif.
Ah oui, c'est ça, même en Europe. Hein,
Carrément, bien sûr, puisque les clubs anglais sont en
grosse difficulté
l'année dernière, donc les stades ne se remplissent pas. Quand on voit la popularité du top 14, même dans le monde, hein, maintenant le top 14 est diffusé dans l'hémisphère sud, c'est un championnat qui est énormément suivi et très attractif, notamment au niveau financier. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de joueurs de l'hémisphère sud, ou même maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, d'Angleterre, qui viennent en France pour jouer au top 14, quitte à ne plus pouvoir jouer avec leur sélection, parce qu'aussi la carrière d'un rugbyman, elle est très courte, et puis quand on peut engranger un peu d'argent pour ses vieux jours, c'est toujours une bonne chose.
Alors forcément, la question qui vient derrière, Bruno Salvé, c'est de dire ce championnat est évidemment excellent, c'est un des très très bons championnats réputés dans le monde, les joueurs français y sont, il y a aussi beaucoup de joueurs étrangers, est-ce que ça peut ou non favoriser l'équipe de France?
Alors, il y a quelques années, c'était vraiment à l'époque où Toulon était champion d'Europe, où ils avaient fait venir...
Les années Wilkinson, quoi.
Voilà, ouais, énormément de joueurs étrangers. Justement, cet apport de joueurs étrangers, quelque part, empêchait les jeunes talents français de s'exprimer. Et ce n'est plus le cas maintenant, puisque les clubs l'ont bien compris. Et puis, il y a aussi l'obligation de mettre sur la feuille de match des GIF, ce qu'on appelle des joueurs issus de la formation française. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. C'est un règlement qui a été instauré. C'est-à-dire, si vous n'avez pas des joueurs issus de la formation française, alors je ne sais plus quel quota
exactement,
il y a un ratio, et ben vous ne pouvez pas aligner d'équipe. Donc ça, c'est une bonne chose pour favoriser l'émergence de talents de joueurs français, donc sélectionnables pour l'équipe de France. Mais ça reste toujours très attractif avec la venue de joueurs étrangers. Après, j'ai vu Bigard ce matin à l'ouverture.
Dan Bigard.
Dan Bigard, l'ancien de numéro 10 gallois. Je me demande
pas l'autre.
Je me demande ce qu'il fait encore sur un terrain, parce qu'il a un renard. Ouais. Et puis, le 10, son nom m'échappe, du Racing.
Farrell.
Farrell, Owen Farrell, qui... Bon, il a marqué un essai, mais qui ne prouve plus grand-chose. Donc, c'est vrai qu'il y a certains...
Il a marqué un bel essai, mais c'est tout.
Oui, voilà. Dans la conduite du jeu, ils n'apportent pas grand-chose.
Est-ce que vous trouvez, Christian, que le rugby français a trouvé son équilibre, justement, entre un championnat très exigeant et une équipe de France qui performe quand même, même si elle a un peu déçu ces derniers temps?
J'ai peur un peu. Le rugby français trouve son équilibre. Ça va devenir un des meilleurs rugby du monde. Mais les équipes nationales, aujourd'hui, on s'aperçoit, et on s'en est encore aperçu à la dernière Coupe du Monde... Elle prépare la Coupe du Monde. C'est-à-dire que le tournoi des Cinq Nations, le machin de l'hémisphère sud, de mon truc, ça, ils préparent la Coupe du Monde. Les Néo-Zélandais sont, après 4 ans de préparation, arrivés à la Coupe du Monde avec des équipes renouvelées, rodées, entraînées. L'Irlande, elle arrive avec 15 victoires consécutives, salut, puis ils sont pas allés au bout.
Enfin, ils étaient tous les deux en demi-finale. Hein.
Oui, d'accord, non, mais enfin, tu vois, il y a celui qui gagne. Aujourd'hui,
c'est
n'importe quelle équipe, c'est la Coupe du Monde.
Olivier Deniau.
Non, mais je suis d'accord. Hein, mais l'équipe de France avait aussi préparé la Coupe du Monde. On n'est pas passé si loin que ça, finalement.
Un point.
Ah oui, mais oui, mais bon, c'est ce qui fait la différence à un moment donné, que ce soit en rugby ou en foot. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour que la pièce elle tombe du bon côté. Malheureusement, bon, bah là, comme tu dis, un point et quelques
points. Un point et un arbitre.
C'est toujours pareil. Donc, mais on est toujours présent quand même. On arrive à être pas loin du dernier carré,
oui,
du dernier
final.
Mais je suis d'accord. Nos joueurs seront prêts également.
Même si la Nouvelle-Zélande épouvante un peu moins qu'elle ne le faisait il y a quelques années, parce que le niveau mondial du rugby a quand même s'est homogénéisé et qu'aujourd'hui, n'importe quelle équipe, on va dire dans les 5, 6, 7 premières nations mondiales, peut battre les Néo-Zélandais, ce qui n'était quand même pas le cas il y a encore 10 ans, Bruno.
Et après, il faut tenir un tournoi en entier. Hein, c'est pas sur un match. Il ne faut pas oublier qu'une
Coupe du Monde... On voit des Argentins qui sont capables de battre les Néo-Zélandais, mais...
C'est sur deux mois, la Coupe du Monde. C'est toujours ça, c'est pas pareil. Comme en athlée, un meeting, c'est une course. Et les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, c'est 3 à 4 courses, des fois.
Après, la popularité à la fois du top 14 et de la Coupe d'Europe fait aussi que les joueurs français jouent beaucoup plus que les autres nations, notamment les équipes...
C'est vrai qu'on a oublié la Coupe d'Europe.
Oui, il y a la Coupe d'Europe. Il y a un cumul de matchs qui est très important, notamment pour les internationaux. Donc le rugby, on y a tous joué un petit peu. Hein. Quand on sort d'un match, on est généralement cabossé, surtout quand on voit maintenant les gabarits et puis l'intensité qui est mise dans les matchs. Donc c'est aussi un des facteurs qu'il faut prendre en compte. Les Néo-Zélandais jouent deux fois moins que les Français. Les Sud-Africains aussi ont un championnat de province. Donc qui est bien calculé pour préserver les joueurs. Soit ils jouent en club, soit ils jouent avec leur province. Mais voilà, ils ont beaucoup plus de plages de récupération. C'est aussi un élément à prendre en compte.
Alors l'autre actualité du rugby, puisqu'on parlait de l'équipe de France, c'est évidemment les affres qu'a traversé l'équipe de France ces derniers temps, avec une tournée en Argentine qui a été cataclysmique, non pas sur le terrain mais en dehors. On a beaucoup parlé de ces fameuses troisième mi-temps sur lesquelles Fabien Galthié s'est exprimé. Est-ce qu'il faut encadrer, comme le propose Fabien Galthié, les troisième mi-temps, ou est-ce qu'il faut laisser faire les choses et puis tant pis s'il se passe des drames ou des choses pas très claires? Quelle est votre opinion, Christian Prost?
Encadrer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que ça, où ça commence, où ça finit. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne va pas supprimer les mariages, parce qu'à la fin de chaque mariage, ça tabasse un peu, où il y a deux mecs...
Pas de chaque mariage, mais de certains mariages.
Non, de certains... Ouais. Voilà, on ne va pas... Tout ce que je sais, c'est que le rugby le peut, comment j'ai connu, cette troisième mi-temps, c'est quelque chose, comme en service militaire, c'est quelque chose dont tu tires quelque chose. Une convivialité, une proximité des mecs en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, avec Bruno Vettel, machin. Tu gardes des contacts, c'est terrible. Et si tu supprimes cette partie-là, je ne suis pas sûr que la plénitude du rugby soit exercée.
Quel est votre sentiment, Olivier Deniau et...
Moi, je ne partage pas complètement ton avis, parce que quand on est sportif de haut niveau, il faut savoir que ça laisse des dégâts, ça laisse des traces aussi bien au niveau physiologique, et que la récupération est très importante. Hein, quand on voit toute la tension et ce qu'on met pour la récupération, que ce soit au niveau de la cryothérapie, au niveau des massages, au niveau de la diététique aujourd'hui dans le sport de haut niveau, je ne suis pas sûr que les excès qui se passent lors des troisièmes mi-temps soit vraiment bien vu.
Donc
et d'autant plus que lorsqu'on représente...
C'est l'esprit contre la performance, enfin,
c'est
un
pas
peu
l'esprit
ça.
Contre la performance. Il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter. Et puis il ne faut pas oublier que quand tu es à l'étranger, que tu portes le maillot de l'équipe de France ou que tu représentes que tu as le costume de l'équipe de France, tu représentes ton pays. Hein. Et lorsqu'il y a des écarts qui sont mis en évidence aujourd'hui, on ne peut plus se permettre certains écarts qu'on pouvait faire avant, parce qu'évidemment, il y a des téléphones portables dans tous les sens, il y a les réseaux sociaux, d'autant plus que même les joueurs eux-mêmes... Lorsqu'ils ont 2 grammes, ils vont faire des vidéos.
Exemple, Melvin Jaminet, pour pas le citer.
Voilà, il fait une vidéo à la con, puis du coup, il est grillé, quoi. Et à un moment donné, il faut assumer ses choix. Et puis, je te dis, c'est sur le coup, OK, ça peut souder une équipe de faire une Java ensemble, ça, c'est évident. Maintenant, si tu as un match la semaine d'après, je suis pas sûr que tu sois dans les meilleures conditions. Maintenant, voilà, c'est...
Bruno ?
Je pense que l'avènement du professionnalisme a déjà modifié les comportements déjà des équipes professionnelles. On le voit.
Oui et non, parce que la preuve, c'est qu'il y a encore des problèmes.
En équipe de France. Mais bon, quand on voit les matchs, ne serait-ce que de top 14, les joueurs sont disponibles. À la fin, il y a une réception avec les sponsors. Les joueurs, ils vont saluer les sponsors.
Ils boivent une bière ou deux.
Ils boivent une bière. Maximum. Et puis après, ils s'en vont. Quoi, parce que, comme l'a dit Olivier, la notion de récupération est de plus en plus importante. Les joueurs joueurs sont professionnels, ce sont des machines à gagner, ce sont des organismes qu'il faut préserver. Et donc c'est sûr que si on prend une timbale à chaque fin de match, on a beaucoup plus de mal à récupérer. Dans le rugby amateur, ça reste une tradition, on est bien d'accord, où on est amateur, après on fait la fête avec les adversaires, et ça c'est vraiment le côté convivial du rugby. Et à partir du moment où on a vraiment cette notion de performance et puis de professionnalisme, on est des professionnels, on est payé pour...
Une prestation, enfin, entre guillemets.
Complètement.
Oui. C'est notre, pour la qualité c'est de prestation métier, d'engagement.
C'est leur métier, on
peut pas... Est-ce que c'est le professionnalisme, Christian, qui pose problème?
Je bois pas beaucoup d'alcool, je fume pas. J'ai jamais levé la main sur ma femme. Donc, que chacun me juge.
Ah non, mais
je suis capable, c'est pas... En revanche, j'ai toujours trouvé, et notamment quand je jouais, j'ai pas fait une grosse carrière, moi, à côté de moi, à Berlin ou en Angleterre, contre les équipes anglaises, en militaire, etc. Cette troisième mi-temps était un moment extraordinaire de rapprochement.
Mais il n'y avait pas d'enjeu de professionnalisme ou de carrière.
C'est vrai aussi.
Mais peut-être que tu n'avais pas un match la semaine d'après important. Et
même s'il y en avait important, je pense que c'était moins grave.
Quand tu as un président de club qui met un paquet de pognon sur chaque joueur et puis qui va devoir prendre une murge tous les dimanches soirs.
Non, mais c'est les temps qui ont
changé. Et que tu te blesses le samedi d'après. Je ne veux
attaquer personne parce que je le connaissais assez bien.
Ouais. Mais voilà,
si vous vous souvenez de la victoire de Gerrit Rutte au 110 mètres haies.
Oui, bien sûr.
Il y a une interview juste après. Je connais un peu. Bon, il arrose. Et puis il avait son paquet de gilets ici. Excusez-moi, pas de publicité, pardon.
Oui, mais c'était un autre temps. On se souvient de Jean-Michel Aguirre, qui a été un grand arrière de l'équipe de France, qui disait qu'au niveau diététique, avant, on leur disait qu'il fallait manger de la viande et du sucre avant un match de rugby, ce qu'ils ne font plus maintenant, parce que tout le monde sait que c'est pas bon.
Mais ça, donc, c'est la culture woke, c'est autre chose.
Non,
c'est juste... pas woke. Ça n'a rien à voir.
C'est autre chose. Le mec qui supprime la viande et les protéines de la viande... On
est sur un autre temps quand on voit que Johan Cruyff
fumait aussi dans les vestiaires.
Il fumait à la mi-temps. Johan Cruyff fumait sa cigarette.
Joueur mythique.
Et il y a des joueurs de je me rappelle d'une finale Béziers contre je sais plus quelle équipe.
D'accord. Narbonne a priori parce que à l'époque c'était Béziers Narbonne.
Ou pareil, les joueurs à la mi-temps fumaient leur cigarette. On est passé sur d'autres principes.
D'autres standards.
Et surtout une hygiène de vie qui est beaucoup plus rigoureuse pour les joueurs de rugby, notamment, et pour tous les athlètes.
Mais non, mais je vois tous les athlètes que quand ils sont en phase de préparation terminale ou autre, mais il n'y a pas un écart qui... Je veux dire, l'athlète, il culpabilise même à aller voir, à faire un écart. Et c'est logique, parce que tu te dis que si à un moment donné, il te manque le petit centième ou le petit centimètre pour gagner... Ou quand il te manque le centième pour démarrer, pour aller marquer le but, ou
si je me suis fait trois amis, je m'en fous, sympa.
tu le payes
si
plus tard.
Si je me suis fait trois amis, je m'en fous.
Oui, mais mais bon après.
Non, mais c'est vrai.
C'est à voir. On parle de haute performance quand même. C'est savoir si.
On est d'accord. Il faut trouver les moyens de garder la convivialité.
C'est l'excès et l'image que tu renvoies aux yeux de l'opinion publique et pourquoi pas même les jeunes. Les jeunes qui vont s'identifier à leurs idoles. Les grands sportifs, si c'est l'image d'un mec qui va finir en tôle parce qu'il aura été faire le guignol.
Mais ça, je trouve que c'est un accident de vie.
Alors qu'il vaut mieux les éviter, je trouve, quand même.
Identifier un Federer, un Sampras, un machin, ça, c'est bien.
Bah oui. Voilà. T'as entendu des échos sur...
L'avantage des sports individuels, c'est qu'il n'y a pas de troisième mi-temps.
Il peut y en avoir, t'inquiète pas qu'il y en a.
Je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que j'ai quand même encadré pas mal d'équipes, et j'ai bourlingué avec beaucoup d'équipes, et notamment des mineurs. Alors, la responsabilité qu'on a quand on est entraîneur et coach, et qu'on a des mineurs sous sa responsabilité, je prends malheureusement la noyade du jeune
en Afrique du Sud.
Je pense que là, il y a vraiment une faute grave de l'encadrement. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et puis après, gérer un groupe, et quand vous avez des fous furieux qui ont décidé de sortir, et vous avez beau faire le tour des chambres, et que quand vous arrivez dans les chambres, il n'y a plus personne, c'est compliqué à gérer. Mais maintenant, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est en équipe de France, on représente son pays, on doit avoir quand même une certaine tenue, et je pense que le fait de resserrer la vis par rapport à ces troisièmes mi-temps, c'est quelque chose de tout à fait normal.
Il y en avait un qui avait tout compris. Il y en a un qui avait tout compris à l'époque. On va te faire la transition. C'était Bernard Tapie. Il avait trouvé le moyen de faire la troisième mi-temps à l'hôtel ou la veille, pour pas que les joueurs sortent faire la bamboula en dehors. Il s'arrangeait pour qu'ils restent à l'hôtel.
Mais souvenons-nous.
Ah, voilà, bah, ah oui, mais Bernard
Tapie. J'ai eu la chance de le rencontrer. Quand Pascal Praud est venu les faire chier à l'hôtel, il lui a bourré la gueule.
Ah, aussi, aussi. Mais il protégeait ses joueurs d'une certaine façon. Mais bon, alors, voilà, après, on va.
Puisque la transition est faite, Olivier.
Je te la fais la transition.
Allez-en, elle est bonne.
Je rends hommage à mon président marseillais quand même.
Je sais que de votre part.
Et tu me connais.
Je sais que de votre part, c'est quand même un effort.
Je suis pour l'exemplarité du sport.
Mais moi, oui. Mais bien sûr, je sais bien.
On va laisser parler Christian.
Je sais bien.
Mais. J'en viens à me féliciter de n'avoir été qu'amateur.
Ah, peut-être,
parce que
oui.
J'ai pu profiter du sport et...
Des à côté du sport.
Et de la, ce qu'on appelle, tu sais, cette espèce de sentiment quand tu te rassembles autour d'un projet commun. Tu vois ?
Mais tu peux le faire aussi dans les limites du raisonnable, je dirais. Moi, je l'ai vécu au Club France.
Ou Von Braun. On peut pas t'aider.
Ben, si, tu peux. J'ai vu aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, ceux qui avaient fini leur compétition, qui allaient au Club France, pouvaient faire la fête. Bon, voilà.
Dans des limites.
On n'a pas eu d'excès si terrible que ça.
On pourrait faire la troisième mi-temps pendant encore des heures.
On peut y aller. Hein,
on va parler un petit peu
football. Après, si on sort des anecdotes, on peut y aller. Mais...
Non, pas de nom, s'il vous plaît.
Pas de nom, non, je ne sortirai pas de nom, bien sûr.
Olivier Dogneau, le football avec tout d'abord la Ligue 1 de football. Oui. Le PSG qui a battu largement l'OM ce matin. Je suis désolé pour vous. Hein,
mais... Ah non, mais pas moi. Moi, je suis parisien. Attends, je rendais hommage à Bernard Tapie.
D'accord.
Qui est quand même parisien d'origine et qui a réussi à Marseille. Ça, il faut pas l'oublier.
Fais gaffe dans le foot. Hein. Donc voilà, est-ce que Paris a déjà gagné le championnat ?
Ah, Paris, je dirais, si tu prends les joueurs un par un, ils ont une moins bonne équipe que l'an dernier. Par contre, ça joue beaucoup plus collectif. Si, de façon individuelle. Hein. Tu enlèves les grandes stars qu'ils ont. Parce qu'il fait l'amour en face de moi, mais donc, ça joue plus collectif. Il va répondre, bien sûr, ça joue beaucoup plus collectif. Par contre, ce matin, on est tombé sur une équipe de l'OM qui joue, pour le coup, une fois par semaine, donc qui joue beaucoup moins que les Parisiens. Et les 20 premières minutes, parce que je parle des 20 premières minutes, parce qu'on va toujours mettre sur le carton rouge qui était... Voilà, mais bon, avant le carton rouge, Marseille était complètement inexistant. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas du tout confiance dans la défense. Je ne sais pas ce que De Zerbi a voulu mettre en place comme système. Enfin, Paris... Je ne vais pas dire qu'ils se sont baladés, mais enfin, c'est...
C'était pas un match compliqué, en fait.
Non, c'était pas très compliqué. Puis, en plus, ils ont eu la chance, quand tu mets un pressing comme ça d'entrée de jeu, de marquer tout de suite. Donc, c'est vrai que ça aide. Hein. C'est vrai que des fois, la réussite n'étant pas là, tu domines, ça rentre pas. Là, c'est rentré. Mais alors, ils ont même marqué contre leur camp. Donc,
est-ce qu'il y a des adversaires pour Paris dans Ligue 1 cette saison?
Oui,
quoi.
Parce
c'est
que
ça,
quand
la question
quand
faut
tu
se poser
vois Paris, quand
parce
tu vois Paris,
ça fait des années qu'ils sont champions de France et ça va continuer.
Monaco a perdu contre Nice, malheureusement. Et puis je crois que Nice a pas fait un grand match. Hein. C'est Monaco qui a un peu déjoué. Mais quand tu vois ce que font les équipes françaises comme Brest ou Lille en Champions League et Paris qui n'est pas capable de faire des grands résultats, là, dernièrement ils ont fait un match nul à domicile contre le PSV qui n'était pas une grande équipe non plus. Donc tu dis, il y a aussi des enjeux. Paris en championnat, peut-être qu'ils ont confiance. Ils jouent contre des équipes françaises, ils se disent bon, on est champion de France depuis des années et le moral joue beaucoup dans ces cas-là et peut-être qu'ils sont plus faciles, plus confiants, du coup ils la mettent au fond et en Champions League ça va pas au fond, mais peut-être que parce que les Brestois ils sont pas si bien classés que ça au classement, les Lillois sont au niveau de Monaco là je crois, ils sont juste derrière, par contre, je suis déçu par Marseille.
Ouais, Lille est quatrième à égalité de points avec Marseille.
C'est ça. Donc ils ont 6 points d'avance, Paris, ou combien ?
3 points.
3 points seulement.
3 points sur Monaco.
3 points, tu ne peux pas dire que tu as gagné le championnat avec 3 points d'avance. C'est pas joué. Hein.
Christian Prost.
Bon, vas-y, vas-y.
Non, je suis entièrement d'accord.
Non, mais sur ce championnat, voilà, est-ce que Paris a des adversaires ?
Un brin d'humour un peu. Paris, sans Mbappé, est meilleur. Le Real Madrid avec Mbappé est moins bon.
Ah, on pourra en parler après si tu veux.
Et j'ajouterai.
Et je suis d'accord avec toi.
Qu'aujourd'hui, tu as une équipe de PSG tout, qui joue à 11. Et j'ajouterai qu'un ami argentin, parce que je connais très bien l'Amérique du Sud, etc., m'a dit Messi rentré en Argentine, disait c'est les deux plus mauvaises années de ma vie que je viens de traverser. Tu rentres dans le vestiaire, il y a un siège Mbappé, mais c'est pas le même, il choisit. Voilà. Les pénalties, c'est Mbappé. Les ballons, c'est Mbappé. Ils disent, c'est impossible. Moi, j'étais le grouillot de service. C'est
donc, le PSG sans Mbappé, vous les voyez encore champions cette année ?
Il y a déjà des latéraux qui défendent. Est-ce que vous avez déjà vu Mbappé défendre ?
Ah non, bah non, ça c'est...
Jamais.
À un moment donné, il lui avait demandé, mais ça voilà. S'était pas si bien passé que ça.
C'est un bouquin. Le regard de machin, il est toujours... Jamais, il remonte en...
Bah non, puisqu'il est... On voit bien qu'il est hors-jeu quand même à Madrid. Ouais. Hein, si... Et... il a battu un record, là, sur les hors-jeux.
Donc, et là encore, puisqu'on revient à la conversation de début, l'exemplarité, je préfère que mon fils soit... Mon petit-fils, mes fils sont grands, ils feront plus de foot. Mais que mes enfants, mes petits-enfants... soit voit l'exemple d'un comment comment il s'appelle qui a marqué les buts qui est un de mes joueurs préférés, d'un Modric ou d'un machin plutôt que d'un Mbappé.
Alors la question aussi qu'on se pose, c'est est-ce qu'Mbappé a fait le bon choix en portant à Madrid? Alors je sais qu'on a beaucoup parlé de cette question-là, mais est-ce qu'il fallait qu'il quitte le PSG? Est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va le ramener sur terre? Comment vous voyez les choses, Olivier Deniaux?
Moi, je pense que quand Mbappé est parti, il a pensé qu'il allait arriver dans un grand club où
on a lui sorti.
Sauf que c'est pas le premier. Oui, c'est pas. Il l'attendait comme peut-être le Messi. Je ne sais pas si c'est le bon terme qui convient, mais non, mais en tout cas, est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'on attendait de lui? Je suis pas sûr que ça se passe si bien que ça avec son coach. Bien sûr, voilà, il est pas tout seul.
Comment il s'appelle
le coach?
Non, le joueur.
Vinicius.
Vinicius.
Mais ils arrivent même pas à mettre au point une complémentarité parce que c'est impossible d'avoir une complémentarité avec Mbappé. C'est ce qui est à moi, et le reste, on négocie.
Et quand il était avec Neymar, ça se passait pas si mal. L'autre, il lui mettait des ballons au millimètre, mais de toute façon, c'est sûr que c'est souvent des paires qui vont... Moi, je prendrais deux joueurs, celui qui donne le ballon, celui qui la met au fond. Et il a jamais été aussi bon que quand il avait des espaces. C'est pas l'avançant, c'est pas un Gerd Müller ou un des Lyonis. Enfin, je fais référence à l'ancien temps, on est d'accord, à ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Bruno, quand il donnait des espaces sur
des Lyonis.
Alors, Bruno, voilà, l'avis d'un joueur de rugby maintenant, d'un observateur du rugby sur le foot et le championnat de France. Est-ce que le PSG aujourd'hui, ça va être encore tapis rouge pendant dans ce championnat de Ligue 1?
Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour, mais je pense que Monaco a peut-être sa carte à jouer cette année, parce que je pense qu'ils font un beau parcours en Champions Cup.
C'est ça.
Et pour en venir à Mbappé aussi, je trouve que son jeu, il est essentiellement axé sur sa qualité de vitesse. Et je pense que c'est un joueur qui, quand il va commencer à vieillir un petit peu...
On dit déjà qu'il a un peu moins de performance physique.
Quand il va perdre un peu toute son explosivité et sa vitesse, il va falloir... Alors, peut-être que c'est peut-être maintenant qu'il faudrait qu'il change déjà sa manière de jouer en étant peut-être un peu plus collectif et en faisant des choix un peu plus tactiques et adaptés par rapport à l'adversaire. Mais c'est vrai que la vitesse, il ne va pas la garder toute sa carrière et il va falloir peut-être qu'il s'appuie sur ses coéquipiers.
Ouais, et d'autant plus qu'on sait aujourd'hui on connaît les qualités et les défauts d'Mbappé, et je dirais que défendre contre Mbappé, c'est ce qui s'est passé avec Barcelone, ils l'ont mis 8 fois hors jeu dans le match quand même. Je veux dire, il a battu le record du nombre de hors-jeux dans un match.
À lui tout seul.
Donc c'est hallucinant de faire 8 hors-jeux dans un match.
Avec ses qualités et ses défauts,
il a rien compris.
Christian, est-ce qu'Mbappé a toujours sa place en équipe de France?
Eh bien, moi, je vais être très dur une fois de plus. Et heureusement, les gens qui sont invités habituellement ne sont pas là, mais je m'en fous, j'assume.
Allez.
Mbappé, Ballon d'Or, c'est fini.
Non. Oui,
Manchester City avec Haaland. Comment il s'appelle l'avant-centre de Barcelone, je cherche son nom tout à l'heure, qui joue au Bayern? Lewandowski.
Oui,
Lewandowski.
T'as meilleur partout. Donc c'est fini pour lui.
De toute façon, c'est demain matin le Ballon d'Or. C'est demain matin le Ballon d'Or.
Je ne savais même pas.
Il me semble. Ou mardi matin.
Lewandowski, au milieu de terrain, Modric. Oh machin, t'as des sacrés joueurs encore aujourd'hui.
Plus de Ballon d'Or pour Mbappé, réglé. Mais en équipe de France, il a sa place ou pas?
Je crois qu'il peut apporter par ses qualités de dribble, de vitesse, d'accélération, mais je crois qu'il enlève beaucoup une équipe par son ego. Tout sur moi, et si les mecs jouent à 10 au service de... C'est pas la même chose que jouer à 11.
Alors... On a vu l'équipe de France. Je ne sais pas s'il a les qualités de mannequinat pour défiler à l'arrivée à Clairefontaine, parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment un défilé de mode.
Il y a des coupes de cheveux aussi.
Des coupes de cheveux, donc je trouve qu'il est un peu trop classique. Non, plus sérieusement, C'est le capitaine de l'équipe de France. Bon, on a vu qu'il n'était pas trop concerné par ce qui se passait en équipe de France lorsqu'il ne jouait pas. Mais au-delà de ça...
Vous parlez de les escapades en Suède, hein,
oui,
c'est ça.
Oui, bon, voilà, par exemple. Mais après, bon, après, il a le droit de faire ce qu'il veut quand il est... voilà.
Quand il est trop,
ça, c'est pas
ouais,
le problème. Ouais. Enfin, bon. Mais je pense que Griezmann a arrêté aussi par rapport à ça. Alors, je ne sais pas quelle est l'ambiance... Oui, c'est ce qu'on dit. Après, je n'ai pas d'écho là-dessus. Ouais. Mais je ne sais pas quelle est l'ambiance au sein de l'équipe de France. Qu'est-ce que Didier Deschamps attend de Mbappé quand il l'a nommé capitaine? Parce que je crois que c'est Deschamps qui l'a nommé capitaine. Oui. Hein. C'est un choix de l'entraîneur. Donc c'est bien un choix fort qu'il a fait. Est-ce que Didier Deschamps est capable de se passer d'un très grand joueur s'il estime qu'il y a un risque de conflit au sein du collectif? Il met le collectif avant tout, Didier Deschamps, ça c'est sûr. Donc voilà, après, pourquoi Mbappé était absent, j'en sais rien, puisqu'il a joué juste derrière.
Oui, là il y a un petit mystère que personne n'a...
Il y a un mystère, bon, voilà, je ne suis pas parti.
À Londres.
Voilà, c'est tout, après...
Ce qu'il apporte à l'équipe.
Oui, oui, oui.
En défense, en machin, il est partout. Il passe, il marque. Ouais.
C'est le championnat anglais aussi, hein, qui fait comme
Deschamps
ça.
S'était privé de pour faire le parallèle un peu, Deschamps s'était privé de Benzema à l'époque, qui
tout
était
à fait
au sommet de son art, justement.
Comme par hasard, qui était aussi au Real. Mais bon.
Oui, donc il s'est privé de Benzema par rapport à la gestion du groupe, parce qu'il s'était rendu compte que c'était une personne nuisible au groupe, même s'il avait des qualités exceptionnelles. Le groupe fonctionnait mieux sans lui.
Et en 98, Aimé Jacquet s'était privé dans la construction de son groupe en 96 de David Ginola et de Cantona, d'Eric Cantona. Allez, l'anecdote du jour.
Avec Jacques Lafleur et Jacquet.
Ah.
À la province.
Aimé Jacquet.
Et Jacquet dit...
C'est pas Jacques à dire.
Jacquet me dit...
Jacquet dit...
comment il s'appelle? Carambeu. Oh, c'est pas le meilleur à son poste. C'est loin d'être le meilleur. Mais vous savez, Carambeu, c'est le meilleur camarade.
Ouais. Et ouais. C'est important. On a vu...
Il se promet à table, comme
mais
ça.
Mais oui, bien sûr.
Mais dans chaque groupe, il y a des leaders.
En rugby, c'est pareil.
En rugby, on a des leaders stratèges, on a des leaders de combat. Les leaders de combat, en rugby, sont essentiels dans la mesure où... le gars il va amener l'équipe derrière lui.
Oui, mais on voit des joueurs qui sont pas des stars, mais dont on sent qu'ils ont un rôle auprès de l'équipe extrêmement
important.
Ouais. Adil Rami, c'était le cas en 2014. Hein, c'était lui qui fédérait l'équipe. Il a pas joué une minute. Il est champion du monde.
Un Bruno Zvierzinski.
Zvierzinski, l'ancien talonneur.
C'est ça.
De Paris.
Non, mais il y a toujours des leaders comme ça.
Certains entraîneurs utilisaient ce qu'on appelle le sociogramme, c'est-à-dire un questionnaire qui distribuait aux joueurs. Et certains entraîneurs se servaient de ça pour désigner les capitaines, justement. Et le type de question, si tu devais partir à la guerre avec quelle personne, voilà. Si tu as une soirée à passer, quel est le meilleur camarade? Si jamais tu as des problèmes, qui appellerais en premier? Et y a des noms qui ont apparu sur l'ensemble d'une équipe, d'une personne qui était insignifiante dans le vestiaire, et qui faisait l'unanimité autour de lui, et qui ont été désignés capitaines comme ça, alors que a priori c'était pas la grande bouche ou la grande gueule qui parlait fort et ainsi de suite, mais qui avait cette capacité, de par son attitude, à rassembler l'ensemble du groupe, et qui émergeait donc comme un leader.
Bruno, c'était le cas de Deschamps dans le CR.
Ouais, sûrement. Ouais.
Oui, probablement. Et Deschamps, qui dont on sait, accorde une grande importance à l'esprit de groupe.
C'est ça,
exactement. Et puis, il sait de quoi il parle aussi quand il parle de la constitution d'une équipe et
du
capitaine. Ouais. Bon, et alors le PSG et les clubs français en Ligue des Champions?
Alors, le PSG, je crois qu'ils ont 4 points en 3 matchs. Hein, pour l'instant, c'est pas terrible.
Mais même avec la nouvelle formule?
Surtout avec la nouvelle formule, puisqu'il faut... Surtout, je crois qu'il y a 8 matchs de mémoire.
C'est les 8 premiers qui sortent. Hein.
Ouais, et puis après il y a des barrages. Bon, faut être dans les 24 pour être dans les barrages. Et voilà. Donc Paris, pour l'instant, a fait un match nul la dernière mois à domicile. C'est pas des grosses équipes, quoi. Donc.
Mais par contre, on voit des équipes comme
jouer,
Lille.
Jouer là-bas, ça va être dur. Hein.
Bah, c'est exactement.
On voit des équipes comme Lille qui s'en sortent bien, Monaco,
et
qui
Brest.
Bien. Et Brest,
c'est
Brest, pas perdu. Alors même s'il n'a pas brillé non plus.
Mais Brest, à mon avis, Brest, ils ont 7 points. Ils font. S'ils arrivent à gagner encore un match ou faire 2 matchs nuls, ils seront qualifiés au moins pour les barrages. Et puis, mais il y a quelques équipes comme ça qui ont du mal à s'en sortir. Mais Paris a du mal à engranger des points en Champions League, alors qu'en championnat de France, Ça va mieux, mais voilà.
Bon, bah écoutez, on va suivre évidemment la suite de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, en football et bien sûr le top 14. Et on attendra la tournée d'automne pour l'équipe de France. Avec, on disait, Bruno, on va quand même donner un petit mot rapide de Japon, Nouvelle-Zélande et Argentine, hein, dans l'ordre, c'est face aux Français. Évidemment, l'épouvantail, c'est quand même les Néo-Zélandais dans ce triptyque.
Attention aux Argentins, oui, qui ont fait une très bonne
Rugby Championship.
Ouais, donc,
battu les Néo-Zélandais à Auckland.
Carrément, oui. Ouais. Et puis bon, il y aura d'autres belles rencontres. Hein. Dès le week-end prochain, Angleterre, Nouvelle-Zélande. Donc il y a toutes les nations du Sud qui montent dans l'hémisphère Nord pour affronter les grosses nations. Donc ça va être un début de mois de novembre où on va se régaler.
Oui, parce qu'il y a encore le doublon en plus avec le top 14.
Oui.
En plus.
Oui, voilà. Voilà. Je pense qu'il y a une seule journée, il me semble, le top 14, et après les joueurs seront au repos. Mais oui, au niveau des matchs internationaux, il va y avoir de très belles affiches.
On va suivre ça et on en reparlera dans cette émission Une Semaine Formidable. Pour conclure, avant de se séparer, vos coups de cœur, la réflexion de la semaine, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ou de retenir, Olivier Deniaux?
Moi, c'est plutôt un coup de gueule.
Ah bah ça c'est possible aussi. Ouais,
c'est même le lieu. C'est contre les spectateurs, surtout dans le foot. Ou entre les champs, on va dire, homophobes, racistes, antisémistes, anti-je ne sais quoi, religieux et tout. Et le peu de réaction qu'il y a, enfin, peut-être...
Des autorités.
Des autorités, le peu d'armes qu'on a pour lutter contre ça, quoi. Je sais pas, moi, je les exclurais du stade. Je trouve qu'il n'y a pas de mesure.
Colère.
Ouais, ça m'énerve parce que c'est un manque de respect de l'humanité, des gens, voilà.
Ouais, si on veut sanctionner la troisième mi-temps, on va pas laisser chanter.
Ah ben non, je suis d'accord avec toi.
Surtout que,
tout à fait.
Et surtout qu'ils sont identifiés.
Et en plus, il y a des caméras dans
ils
tous les stades.
Très clairement identifiés.
Donc voilà. Mais on sait que c'est un vieux problème et que les autorités n'arrivent pas à régler. Ouais, Christian, un coup de cœur ou un coup de gueule?
Je vais les faire court, donc j'en fais deux.
Allez, c'est bien parce que c'est
le
vous.
Le coup de cœur, c'est pour les frères...
Lebrun.
Ah oui. Quand même, c'est une belle histoire.
Ah oui.
C'est l'histoire familiale, ouais. C'est deux frères, c'est le jeune qui va mieux.
C'est le papa aussi qui prépare les tables.
Papa qui prépare les tables, les mecs qui montent sur la table.
Ouais.
C'est une belle histoire.
Ouais.
Voilà. Et là,
et c'est une réussite en plus.
Avec une réussite. La deuxième, c'est un thème que j'ai souvent abordé par le passé, c'est j'en ai marre des cartons rouges. Au rugby, il y en avait encore hier, 2, 3, 4, 5, au mauvais moment, au bon. Le rugby, c'est pour jouer à 15 contre 15. Si on joue à 13 contre 15, comme ça arrivait à l'heure d'un match, c'est plus du rugby. C'est comme si un boxeur, il fout le doigt dans l'œil d'un autre boxeur, on lui dit, pénalisé, on t'attache une main dans le dos, il va en prendre plein la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? La suspension.
Il y a des règles, quand même.
Je suis pour la suspension. Un carton rouge, c'est une suspension du match suivant. Mais ils vont jouer à 15 contre 15. Tu comprends, je veux dire.
Oui, parfaitement.
Je pense que la règle du carton rouge, là, elle est vraiment liée à...
On n'est pas dans un débat, on est coup de cœur ou coup de gueule. Hein, non, parce que sinon, on est reparti pour un tour, là. Donc,
on reviendra.
On fera une émission pour ça.
À la sécurité des joueurs.
On reviendra.
À la sécurité des joueurs,
oui. Allez, le coup de cœur.
Alors, moi, j'ai
deux
coups de cœur, parce que Olivier a parlé de public.
Bon, Olivier, vous aurez droit à un autre coup de cœur, parce que chacun en a fait deux. Donc,
le public de rugby, notamment celui de Vannes, et l'équipe de Vannes, donc, qui a remporté son deuxième match en top 14 contre Castres. Une très belle victoire à la maison, et c'est surtout le respect du public vannetais quand il y a une pénalité.
Que même les joueurs qui tapent des pénalités sont stressés parce que ce silence, ils ne le connaissent pas dans le stade.
Une mouche volée, donc c'est grand bravo à cette équipe-là, à ce public. Et puis un grand bravo à l'équipe de Bayonne qui a fait un match splendide à Lyon et qui se retrouve avec cette victoire face aux Lyonnais, qui se retrouve à la troisième place du top 14.
Il y avait qu'un maître à jouer, Lopez, hein, quand même.
Moi, je suis un peu déçu pour Lyon, mais bon, c'est comme ça, on peut pas être dans les deux camps à la fois. C'est comme ça, ce sera pour plus tard. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission Une Semaine Formidable.